Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Dominique Bricquel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur à l'Université de Paris 4. Vous dirigez le Centre de recherche archéologique d'Orient et d'Occident et vos derniers ouvrages sur la civilisation étrusque, parlons-en des étrusques, vos derniers ouvrages font référence dans le domaine. Merci d'être venu jusqu'à nous. Les étrusques, peuple important, ils étaient au début du premier millénaire avant notre ère et ils ont développé la première grande civilisation de l'Italie. L'expansion de Rome va y mettre fin brutalement, nous en reparlerons évidemment tout à l'heure. Mais Dominique Bricquel, qui sont les Étrusques? Quels sont les vestiges que l'on peut voir, que vous les archéologues, les étruscologues, vous pouvez découvrir? Et après tout, il y avait bien d'autres peuples italiques dans la péninsule avant Rome. Alors pourquoi eux? Pourquoi les Étrusques, plus que les autres, nous fascinent-ils autant? Et quand nous préparions cette émission, vous disiez que ce peuple est resté étonnamment proche de nous. Est-ce parce que c'est ce fameux mystère qui les entoure ou bien le fameux sourire étrusque des statues? Mais tout ça est effectivement mystérieux. Et l'un des premiers mystères, c'est quelles sont leurs origines? D'où viennent-ils, les Étrusques?
Alors... il y a des points d'interrogation, il y a en particulier toutes ces composantes du mystère. D'où viennent-ils? Il y a aussi le problème de leur langue. Mais dans un sens, je réagirai peut-être d'abord à votre première remarque. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez les Étrusques? Pourquoi est-ce que maintenant ils peuvent encore représenter quelque chose? Alors je dois dire que ça n'est pas seulement pour les archéologues ou pour les spécialistes comme moi que les Étrusques présentent un intérêt évident, mais fort heureusement, il n'y a pas besoin d'être étroitement spécialisé. Je crois que tous ceux qui ont été faire du tourisme en Italie, en Toscane, dans l'ancien pays étrusque, bon, n'ont pas manqué d'être frappés, vraiment d'être admiratifs, devant tout ce qu'ils nous ont laissé. Alors que justement, vous l'avez rappelé, c'est quand même un peuple assez ancien et au fond qui a disparu au moment où l'Empire romain s'est affirmé. Mais dès qu'on se promène dans la campagne toscane, qui est quand même si agréable et si belle, bah on tombe sur un tombeau étrusque, on tombe sur une reste construction étrusque, les villes actuelles prolongent des villes étrusques. Donc on sent une présence qui est encore tout à fait réelle. Et au fond, tout cet essor de la Toscane, des villes de Toscane à partir du Moyen-Âge à la Renaissance, etc., au fond, on se dit que le terreau les y portait, puisqu'il y avait déjà eu cette civilisation urbaine très riche de l'Étrurie ancienne.
Oui, vous parliez d'une fédération de cités dans le siècle d'or étrusque. Alors, fédération de cités, donc les villes actuelles, on en parle. Et quels sont les siècles d'or?
Alors, déjà, pour ce qui est de la fédération de cités, bon, dans un sens, c'est relativement banal dans le monde antique que les peuples ne soient pas composés d'une manière centralisée et unitaire. Au fond, il n'y a pas eu de système napoléonien dans l'Antiquité, mais que les groupes ethniques se définissent comme étant un groupement de sous-groupes, un groupement de composantes. Et à partir du moment où il y avait l'organisation de la cité, où il y avait différentes villes, où il y avait différentes cités-états, cela aboutissait à des groupements de ces villes, des groupements de ces cités-états. Bon, il suffit de prendre l'exemple de la Grèce, avec toutes les villes grecques, et ils se sentaient quand même comme grecs. Pour les Étrusques, ça a été la même chose, simplement leurs liens communautaires ont été beaucoup plus importants. Et au fond, ils y sont restés fidèles. On parlait de Rome tout à l'heure. Rome, au départ, faisait aussi partie d'une fédération. Là, bien sûr, ça n'était pas les Étrusques, c'était les Latins. On parlait des 30 cités latines, des 30 peuples latins. On utilisait soit le terme peuple, soit le terme cité. Mais très rapidement, nous connaissons les Romains. Et nous savons que les Romains ont exercé une suprématie peu discrète et ont laissé une part tout à fait réduite aux autres. Alors, chez les Étrusques, ça n'a pas été la même chose. Ils avaient un groupement de 12 cités. Alors, on appelle ça la grecque, la dodécapole. Et semble-t-il, il n'y avait aucune cité qui imposait aussi lourdement son hégémonie aux autres que ça n'était le cas pour les Romains.
Alors, vous avez parlé des Grecs, effectivement. On va retourner aux origines, à l'interrogation. Oui. Le monde égéen, sans doute, donc les Grecs, ou bien une origine autochtone, ou bien les deux.
Alors, dans un sens, il y a le problème des origines, mais je préfère ne pas aborder directement le problème des origines, mais au fond, le problème de la naissance de la civilisation étrusque. Parce que ça, très clairement, au fond, la civilisation étrusque et toute la richesse de cette civilisation dont nous parlons ne s'explique que grâce aux Grecs. Parce qu'il y a eu une sorte d'impulsion qui leur est arrivée de l'extérieur, qui leur est arrivée par les Grecs. Au fond, la civilisation étrusque émerge au moment où commence ce grand mouvement de colonisation grecque, c'est-à-dire où les Grecs, sortant de l'époque de ce qu'on appelle les Dark Ages, l'époque sombre, les siècles obscurs après la chute des Palémicéniens, bon, la Grèce connaît donc une période un peu difficile, puis brusquement, c'est le fameux miracle grec. Cela se traduit sur le plan intérieur, bien sûr, mais aussi sur le plan extérieur. On voit les navigateurs grecs se lancer sur les mers, sillonner les chemins maritimes de la Méditerranée, y compris de la Méditerranée occidentale, et commencer à entrer en contact avec les peuples indigènes en Espagne, le fameux Tartessos, mais aussi beaucoup en Italie. En fait, pour situer les choses chronologiquement, la première colonie grecque fondée en Occident et fondée en Italie, c'est l'île de Pithecus.
Pithecus. C'est Ischia.
Oui, c'est un lieu tout à fait sympathique et attrayant. On comprend que ça a attiré les Grecs. Ils se sont installés sur cette île vers 775 avant Jésus-Christ, avant de passer sur la terre ferme, sur le continent, et fonder la ville de Cum en 750. Bon, on voit très bien le mouvement. D'ailleurs, les Phéniciens, c'était aussi un peu la même chose. Ils commençaient prudemment à s'installer sur une île à proximité de la côte, avant de se risquer sur la côte elle-même. Donc, les Grecs s'installent à demeure à ce moment-là. Bon, on se trouve en Campanie, on n'est pas très loin de Naples. Donc, nous aurions peut-être l'impression aujourd'hui que nous sommes loin des Étrusques, puisque nous sommes largement au sud de la Toscane, mais il ne faut pas oublier que les Étrusques, à cette époque-là, débordaient largement de la Toscane. Et en particulier en Campanie, il y avait une population étrusque. La ville de Capoue, qui était la grande cité étrusque à l'époque, était là aussi la capitale d'une petite fédération étrusque de Campanie.
C'est pour ça qu'on parle de l'art de vivre étrusque et les délices de Capoue.
Alors, les délices de Capoue,
je sais que c'est plus tard.
C'est un peu plus récent, puisque c'est Hannibal qui a sombré dans les délices de Capoue. Mais là aussi, on peut voir certainement, effectivement, un héritage étrusque, parce que le mode de vie des Étrusques, les poussait tout à fait,
plaisir
tout à,
de
fait
vivre,
à ça.
Oui.
Et d'ailleurs, bon, vous faites allusion aux délices de Capoue. Les textes latins nous parlent à ce sujet de luxuria. Luxuria, c'est la luxure, mais aussi le luxe excessif. Les textes grecs nous parlent de la notion d'hubris. Hubris, c'est la démesure dans tous les sens. Et justement, c'est un des griefs qu'on faisait aux Étrusques. En fait, il faut bien comprendre que les Grecs et les Romains, qui se sentaient évidemment moins favorisés matériellement, regardaient avec envie les Étrusques et regardaient justement avec beaucoup d'envie leur genre de vie, les banquets auxquels ils se livraient, etc.
Alors, quels étaient les atouts des Étrusques pour être plus favorisés que les autres ? Agriculture, mine ?
Alors, justement, c'est là où, ce qui explique au fond le point de départ, si on veut, ce décollage de l'Étrurie. Vous parlez de l'agriculture, je crois qu'il ne faut pas en faire abstraction. Déjà, dans des conditions, disons, proto-historiques, la Toscane est un pays relativement riche sur le plan agricole. Évidemment, c'est une terre dure à travailler, bien sûr, mais nous ne sommes pas dans ces régions quand même beaucoup plus dures de l'Italie centrale, toutes ces populations montagnardes, bon, tout ce qu'on appelle les Samnites, les Èques, les Volsques, les Èques, etc., qui évidemment vivaient dans des zones tout à fait pauvres. Bon, la Toscane, c'est un pays de collines, un pays qui, pour l'Antiquité, était assez avantagé. Et là, il y a quand même une avancée technique des Étrusques, qui est qu'ils ont maîtrisé assez rapidement des techniques hydrauliques. Et le sol de Toscane, souvent, c'est du tuf, donc une pierre facile à travailler, qui n'est peut-être pas très riche pour donner un terroir agricole, mais justement qu'on peut assécher, qu'on peut facilement bonifier. Et cela a certainement été un atout des Étrusques que de maîtriser toutes ces techniques-là.
Ils avaient un côté ingénieur.
Ah oui, ils avaient un côté ingénieur, et d'ailleurs les Romains en ont profité, parce qu'il y a eu un moment où il y avait des rois étrusques à Rome, et justement ces techniques d'ingénieurs d'hydraulique, ils les ont mis à profit pour leur système d'égouts. Et ça peut nous sembler bizarre, mais les Romains considéraient qu'un des grands avantages de leur cité est d'avoir un système d'égouts remarquable, et ils méprisaient les cités grecques en disant « Ah, les Grecs, ils ont pensé à faire des beaux temples, etc. » Mais ils n'ont pas pensé à l'essentiel. Nous, nous avons un système d'égouts.
Merci. Alors, les Étrusques.
Oui, c'est les Étrusques. Ce qu'on appelle la cloaca maxima, le très grand égout, c'est les ingénieurs étrusques, au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui l'ont établi à Rome.
Alors, donc, les Grecs viennent là, ils se trouvent devant une population qui garde sa spécificité.
Oui, alors là, je vais peut-être préciser, au fond, ce pourquoi de l'arrivée des Grecs. Parce que, là aussi, si on regarde sur la carte, j'ai parlé de la colonisation grecque qui commence en Campanie, c'est assez étrange. Parce qu'on est assez loin de la Grèce. Au fond, on aurait imaginé qu'il commence plus par, disons, la région de Tarente, peut-être la Sicile, qu'il ne fasse pas le tour de la botte pour remonter aussi loin vers le nord. Maintenant, on comprend de plus en plus que, justement, s'ils sont partis si loin vers le nord, c'est justement qu'ils voulaient entrer à la rencontre des Étrusques. Et il y a une découverte qui n'est pas très spectaculaire, mais qui nous montre bien le sens de ce mouvement des Grecs, qui est que, lorsqu'on a fait des fouilles, justement, dans ces établissements grecs très anciens de Pithecus, de l'île d'Ischia, on est tombé sur des morceaux de minerai de fer. Le minerai de fer, il n'y en a pas sur place. Or, ce minerai de fer, on sait très bien d'où ça vient d'Étrurie. En effet, en Étrurie, en Toscane, il y avait, dans la zone de l'île d'Elbe, puis les cités étrusques qui font fat sur la côte, en particulier une ville qui s'appelait Populonia, il y avait des ressources en minerai de fer qui, à l'aune de l'Antiquité, était extrêmement riche. Alors bien sûr, maintenant, on a des minerais plus riches, mais c'était un fer relativement facile à trouver, à travailler, et semble-t-il, ça a permis un décollage commercial des Étrusques, parce que les Grecs avaient besoin de ce minerai de fer. Les Grecs, on pourrait dire aussi, les Phéniciens sont aussi venus.
Donc des échanges.
Oui.
Donc d'où échange économique, puis échange artistique.
Oui.
Culturel.
Oui. Alors là aussi, il y a quelque chose d'assez intéressant, justement, ce que vous soulignez concernant les Étrusques. Parce que, au fond, si on songe à ce qui se passe dans le monde actuel, on pourrait dire, les Étrusques, ils ont une matière première et ça leur donne des ressources. Du coup, ils procèdent à des échanges. Et on sait très bien, malheureusement, que des pays riches de matières premières, c'est pas ça qui leur permet un véritable développement et ça peut être gaspillé, ça peut ne pas aboutir à la construction de quelque chose d'original. Dans le cas des Étrusques, visiblement, on n'arrive pas à savoir exactement comment ça s'est fait et à comprendre quelles sont les motivations, mais ce qu'on constate, c'est que les Étrusques ont gardé leur indépendance, ont gardé leur personnalité. D'ailleurs, au fond, si les Grecs avaient pu aller plus loin vers le nord pour trouver leur fameux minerai de fer, dans un sens, ils ne se seraient pas arrêtés à Ischia. Ils auraient été jusqu'à la ville d'Elbe et ils ont installé des colonies dans ces régions-là. Ils auraient conquis le terrain exactement comme ils l'ont fait dans ce qui est devenu la Grande Grèce de l'Italie du Sud.
Oui, donc les Étrusques ont su faire des échanges, mais ont su préserver leur précaré.
Oui, il y a eu certainement une cohésion et, disons-le, une capacité de résistance et de refus de l'absorption de la part des Étrusques qui fait qu'ils ont gardé leur personnalité. Il y a quelque chose, alors malheureusement, comme toujours, on peut avancer plusieurs hypothèses explicatives. On trouve, soit dans des tombes justement de ces premiers colons grecs d'Italie du Sud, à Ischia et ailleurs, soit aussi dans des grands sanctuaires grecs, on trouve des armes étrusques, des grands boucliers qui sont assez caractéristiques, des pointes de lance, des choses que les archéologues connaissent bien, qui sont de fabrication étrusque. Alors, évidemment, on peut les interpréter de différentes manières. On peut dire que ça a été des cadeaux qui ont été faits à des commerçants ou des navigateurs grecs, mais on a pu aussi proposer l'idée que, justement, c'est la trace de contacts qui n'ont pas toujours été simples et qui n'ont pas toujours été pacifiques entre les Étrusques et ces Grecs, que, justement, ils ont empêché les Grecs de conquérir leur terrain. Toujours est-il qu'on voit très bien au 8e ou 7e siècle, donc à une époque assez haute, les cités étrusques se développent. Au fond, adopte un modèle grec, importe toutes sortes d'objets grecs parce que c'est ce qui représente le progrès, mais pour autant, ils ne se laissent pas faire et ils maintiennent leur indépendance et ils développent une civilisation qui absorbe, bien sûr, les éléments externes, mais une civilisation qui reste profondément la leur, ne serait-ce que par leur langue. Ils ne se mettent pas à parler grec.
Oui, ils ont une langue qui n'est pas indo-européenne.
Ah oui, alors ça, c'est un autre aspect très compliqué en ce qui concerne les Étrusques, le fameux problème de leur langue. Parce que, là aussi, il y a toujours des discussions, et certains collègues verraient les choses différemment, mais je crois que vous avez raison, on ne peut pas dire que l'Étrusque soit une langue indo-européenne. au fond, il y a une raison toute bête, qui est que si l'étrusque était vraiment de la famille des langues indo-européennes, on n'aurait pas de difficultés énormes pour le comprendre. Il est clair que beaucoup de traits nous échappent. Alors, d'une manière un peu plus positive, là, ça devient presque des questions techniques, mais ce qu'on appréhende du fonctionnement de la langue étrusque, ça ne ressemble pas à ce qu'on peut définir comme étant indo-européen. Pour prendre un mot un peu savant et un peu technique, il y a des traits de langue agglutinante qui ne correspondent pas à la manière dont nous définissons les langues indo-européennes.
Così amor mi fa languir, mi fa languir. Così amor mi fa languir, mi fa languir. Non è mio ciò che desio, chi mi fugge seguir veggio, e chi mi strugge nel mio fuoco ad affuggir, e chi si strugge nel mio fuoco ad affuggir. Così amor mi fai languir, mi fai languir, mi fai
Alors, avant de parler de l'art, du sourire, de toute cette magie des Étrusques, j'aurais voulu qu'on voit pourquoi ces peuples qui étaient si, si efficaces pour se protéger des Grecs ont été complètement envahis par les Romains. Finalement. Mais ils en ont laissé un héritage dans le monde romain.
Tout à fait.
Un bel héritage, on vient de l'évoquer avec les égouts. Mais finalement, ils ont été tout de suite brutalement les premiers visés par les Romains, qui étaient leurs voisins, faut
oui.
dire.
Oui, alors, bon, nous faisions allusion tout à l'heure à la luxuria, à l'hubris. Alors, bien sûr, les auteurs de l'Antiquité avaient une explication toute trouvée qui était purement moralisante en disant « Ah, ils se sont laissés aller, ils ont perdu leur qualité ancestrale alors que dans le temps ils étaient forts, ils étaient vigoureux, ils se sont laissés faire. » Bon.
Ça, c'est l'historiographie.
Oui, c'est l'historiographie. Et oui, d'autant plus que s'agissant des Étrusques, on sort aussi un peu à ce que nous disions tout à l'heure, le problème de la langue. Ils ne nous ont pas donné de documents, puis à la limite, ils nous en auraient donné, on n'arriverait peut-être pas à les comprendre. Donc, les récits que nous avons sur l'histoire des Étrusques, c'est toujours fait soit par les Grecs, soit par les Romains, qui, même s'ils ont été leurs partenaires, ont été peut-être avant et surtout leurs ennemis. Donc, l'image est tout à fait dépréciative.
Parce qu'il y a des motifs de propagande. Tout à fait, du mal tout à fait. Des
oui, tout à fait. Je retournerai un peu la perspective en voyant les choses du côté de Rome. Parce que ça n'a rien eu d'une conquête rapide et d'une conquête brutale. Si on regarde comment les choses se sont faites, les Romains, ce qui est normal, ont attaqué d'abord la ville étrusque la plus voisine, qui était Veille. Veille qui était la grande voisine de Rome. Et d'ailleurs, bon, comme c'était des voisins, là, les rapports difficiles ont commencé depuis le début, parce qu'on racontait que la première guerre entre Rome et Veille datait du temps de Romulus. Donc, c'était en quelque sorte congénital à Rome. Donc, les Romains dressent le siège de Veille, c'est le fameux Camille, on est au tout début du 4e siècle avant Jésus-Christ, et ils s'emparent de la ville de Veille au bout d'un siège de 10 ans. D'ailleurs, vous
ça
voyez
fait un peu Odyssée, ça. Iliade,
ah oui, alors
Iliade.
Je vois que vous avez très bien vu quel était le problème. Il est clair que c'est de la légende et que c'est calqué sur le siège d'Ilion par les Grecs. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que dans l'esprit des Romains qui commençaient à voir un peu des teintures de la culture grecque et donc qui commençaient à connaître Homère. Il ne faut pas oublier que la première œuvre de la littérature latine, bah, c'est une traduction en latin de l'Odyssée, faite par Livius Andronicus. Alors, je reviens à cette histoire du siège de Veille. Au fond, les Romains ont dû être tellement obnubilés d'avoir enfin pu remporter la victoire sur Veille que, pour eux, ça a été aussi important que pouvait l'être la prise de Troie par les Grecs. D'autant plus que, là, on peut faire intervenir nos ancêtres les Gaulois. Au lendemain de la prise de Veille par les Romains, bah, les Gaulois se sont manifestés et, à leur tour, se sont emparés de Rome, ont mis le feu à Rome. Le problème s'est posé, et ça, Tite Live le raconte en long en large, il a fallu un beau discours de Camille pour persuader les Romains de rester sur le site de Rome, parce que certains se disaient, bah, pourquoi rester à Rome et ne pas aller à Veille. Donc ça a été vraiment un événement très, très important, et lorsque Veille est tombé, disons, en 396 avant Jésus-Christ, enfin, les dates quelquefois varient un peu, vraiment ça a été une très grande victoire de Rome. D'ailleurs, le territoire de Rome, ce qu'on appelle la guerre Romanus, a augmenté presque de l'ordre de 40%, ce qui est quand même considérable. Mais nous sommes au début du IVe, l'avancée de Rome en Étrurie, c'est de l'ordre plutôt du grignotage. Et il faudra attendre 264 avant Jésus-Christ, donc plus d'un siècle après, pour que la dernière cité étrusque indépendante qui résiste encore, qui est Volsinii, qui se trouve à Orvieto, tombe au pouvoir des Romains. Donc Rome a toujours eu cette politique de conquête par petits pas, de lente conquête, et ça n'a rien eu de l'épopée fulgurante d'un Alexandre. D'ailleurs, je l'évoque parce que là aussi, on peut rappeler des textes de Tite Live où il y a une comparaison entre Alexandre et les Romains, et bien sûr, les Romains savaient que Alexandre avait été beaucoup plus brillant. Oui, alors je reviens un peu à ce que je disais en disant que je prenais les choses du point de vue de Rome. Parce que, au fond, le problème a peut-être été moins du côté des Étrusques que du côté des Romains, que Rome était, bien avant la grande expansion dans la Méditerranée, au fond, était une puissance impérialiste, que Rome avait fondé son fonctionnement en tant que cité.
C'était guerrier.
Oui, en grande partie sur l'aspect militaire, à tout point de vue. On s'aperçoit que, par exemple pour l'économie, dans des conditions d'économie peu développées, disons, les rendements de l'agriculture sont forcément très, très faibles. Bon, le meilleur moyen de s'enrichir, c'est le butin. Donc, aller prendre les richesses des autres, c'est un moyen tout à fait correct et tout
légitime.
À fait intéressant. Oui, parce qu'on trouve toujours, alors là on retombe aussi sur quelque chose de très romain, ce qu'on appelle la guerre juste, le bellum justum, on trouve toujours d'excellentes raisons de faire la guerre, c'est les autres qui sont dans leur tort, et jamais soi.
C'était pas l'état d'esprit étrusque,
non.
Ça.
Non, nous on aurait un peu naïvement l'idée que la démocratie, ou disons une république, doit nécessairement être pacifique. Or, à Rome, ce n'était pas du tout le cas. Au fond, on était devant un système où chaque année, il fallait élire les chefs, bon, les fameux consuls qui étaient à la tête de la République. Les consuls, une grande partie de leur fonction, ça consistait à mener les armées à la guerre et à la tête des légions, écraser l'ennemi, si possible, remporter les honneurs du triomphe. Et même pour être élu consul, bah, ce qui comptait, c'est que c'était des gens qui aient fait leurs preuves en tant que militaires, en tant que chefs militaires. Donc il y avait une sorte de logique guerrière dans les institutions même de Rome qui, en quelque sorte, poussait nécessairement les Romains à être agressifs. Bon, du côté des Étrusques, visiblement, ce n'était pas leur problème. Ils se trouvaient bien comme ils étaient, ils n'avaient pas du tout envie de s'étendre à l'extérieur, donc ils ont toujours été sur la défensive. Alors, sur un autre plan, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect fédéral, il y a une fédération où les cités ne se faisaient pas toujours la guerre entre elles, comme c'était le cas des cités grecques. On a peu de données, mais il n'y a sans doute pas eu l'équivalent de la guerre du Péloponnèse et Sparte, mais clairement, ça ne leur permettait pas une action aussi efficace que pouvait être l'action romaine. D'autant plus qu'au sein de la fédération, comme chaque cité avait son autonomie et était libre sur le plan de la politique intérieure, cela pouvait aboutir à des tensions. On sait en particulier, nous parlions de la prise de Veille, que les Étrusques, comme les Romains, étaient passés assez rapidement à la République. C'est-à-dire qu'ils avaient des magistrats élus à leur tête, qu'on va appeler Zilates, on a des inscriptions qui citent ce nom, et ils n'avaient plus un roi. Ils n'avaient plus un roi qui régnait pendant toute sa vie. Or, le cas de Veille avait été un peu à rebours de l'histoire, puisqu'on nous dit que les gens de Veille en avaient tellement assez des difficultés liées aux élections, semble-t-il, les candidatures se passaient mal, ça aboutissait à des troubles, donc ils avaient cédé à la tentation de remettre un roi à leur tête. Et du coup, les autres cités étrusques, qui elles étaient attachées à leur régime républicain, n'ont absolument pas soutenu Veille. Et comme ça, peu à peu, Rome a gagné. Alors, il y a peut-être aussi un autre facteur qui a beaucoup joué. Alors là aussi, c'est des choses qu'on reconstitue plus que ça nous est dit clairement, puisque malheureusement, on n'a pas de texte latin et grec qui nous écrivent les choses très en détail. Mais c'était un peu la contrepartie de cette richesse des Étrusques. Richesse, oui, mais comme toujours, tout le monde n'est pas riche. Et il y avait une très puissante aristocratie qui semble effectivement avoir vécu dans un faste et un luxe absolument faramineux. On pourra parler de l'art poète russe qui nous dépeint leur vie tout à fait somptueuse, mais en dessous de ça, les gens du peuple devaient être dans des conditions assez précaires. Et on a un certain nombre de textes qui, visiblement, laissent entendre qu'il y avait d'énormes tensions sociales. Alors, les tensions sociales, ça existait partout. Ça existait en Grèce, on parlait de Rome, les plébéiens et les patriciens. Bah, les Romains sont arrivés à trouver une solution. En Étrurie, il semble qu'il y ait eu des épisodes quasiment révolutionnaires. Je parlais de la ville Volsigny, la dernière est tombée en 264. On nous dit que les esclaves avaient pris le pouvoir. Alors, est-ce que c'est vraiment les esclaves ? On peut discuter, mais clairement, l'aristocratie avait été chassée de la ville. Donc, ce qui veut dire que Rome, les Romains étaient dirigés par leur Sénat, qui était, c'était une république si on veut, mais en réalité, c'était un régime tout à fait aristocratique, on pourrait dire oligarchique. Les aristocrates romains et les aristocrates étrusques ont pactisé ensemble, et ces nobles ont favorisé la mainmise de Rome.
Il n'y avait pas de classe moyenne, alors ? Vous aviez l'oligarchie qui décide des religions, politiques, économie, art, et peut-on dire esclave, on ne le saura jamais.
Oui, alors.
Mais rien au milieu.
Oui, alors c'est un des gros problèmes, parce que malheureusement, on n'a pas de texte qui nous en parle. Les données archéologiques peuvent difficilement, quand même, donner une image très, très précise. On a quand même l'impression que ça va vers ce genre de situation. Une aristocratie qui accapare tous les pouvoirs et en dessous, tout le reste relativement peu distinct. Justement, le fait qu'on parle d'esclaves d'une manière assez large et qui est sans doute inexacte, doit vouloir dire que les Romains et aussi les Grecs qui n'avaient pas au fond de catégories intermédiaires, devaient se trouver en présence de genres de situations, disons, qui seraient de l'ordre du servage. Donc des personnes qui, peut-être, à titre personnel, étaient libres, mais n'avaient pas tous les droits qu'on attendrait de la part d'un citoyen.
L'art, parce que justement, tous ces gens étaient des artistes, tous ceux dont on a vu les vestiges, parce qu'il y a eu des nécropoles dont les découvertes ont été merveilleuses, surtout à Tarquinia, parce que le tuf, justement, oui, a permis une très bonne conservation des dessins, des peintures, des couleurs.
Oui, alors ça, c'est vraiment...
Mais c'était donc une caste, ces artistes-là.
Oui. Alors... les artistes. Alors effectivement, oui, Tarquinia, là, on parlait du tuf pour l'agriculture, mais là aussi, c'est une chance inouïe, qui est que cela a permis quand même de garder une atmosphère suffisamment sèche pour que ces peintures nous soient conservées. Alors il y a d'autres endroits où on trouve quelques peintures, mais ça n'est plus que des restes. Tandis qu'à Tarquinia, on a des centaines de tombes peintes avec une fraîcheur remarquable et qui justement nous présente la vie fastueuse de ces nobles. On aurait l'impression qu'ils passent leur temps à faire des banquets, éventuellement aller à la chasse, assister à des jeux, par exemple des courses de chars ou des combats de boxe, ce genre de choses. Non, c'est quelque chose d'assez impressionnant de voir même le côté très vivant que gardent ces
images. Et la place des femmes était un petit peu plus valorisée qu'ailleurs, je crois.
Ah oui, alors là, c'était vraiment des côtés qu'on pourrait trouver aujourd'hui sympathique des Étrusques, mais nous parlions tout à l'heure de leurs ennemis, les Grecs et les Romains, et ça, c'est quelque chose qu'ils ne leur pardonnaient pas. Ils considéraient que la femme étrusque était nécessairement une dévergondée, parce qu'elle avait quand même, je ne dis pas une liberté de vie totale, il ne faut pas non plus idéaliser les choses dans ce sens-là, mais certainement, elle avait une place qui était bien plus importante et bien plus acceptée et reconnue socialement que ses congénères grecs et latines. Un exemple tout simple, on a beaucoup de représentations de scènes de banquets. Donc on nous présente ces nobles étrusques en train de festoyer. Et le banquet grec, on le connaît bien, il suffit de lire les textes, c'est une affaire d'hommes. Ou alors s'il y a des femmes, disons, bon, c'est pas quelque chose de très recommandable. Mais une femme de la bonne société ne serait jamais permis de se rendre en banquet. Tandis que chez les Étrusques, ce que on voit représenté sur ces peintures, ben, c'est des couples où vous avez hommes et femmes. La peinture, bien sûr, mais vous faisiez allusion tout à l'heure au sourire étrusque. On connaît bien le sarcophage des époux où vous avez allongé côte à côte le mari et la femme. Ils sont allongés sur un lit de banquet. Donc là encore, c'est l'image du banquet. Alors, ce qui veut dire que la femme participait à ces manifestations sociales et en Grèce, ou disons dans l'Athènes du 5e siècle, parce qu'à l'époque archaïque les choses étaient sans doute différentes, ou à Rome, c'est des choses qui ne se faisaient pas. Alors vu par les Grecs et par les Latins, c'était quelque chose vraiment d'absolument honteux. D'ailleurs c'est amusant parce que Jacques Orgon parlait des commérages des Grecs à ce sujet-là, c'est tout à fait ça, parce que on peut très bien voir la marche de la calomnie. Ils savent que les femmes assistent au banquet à côté de leur mari. Bon, alors déjà ça, c'est scandaleux, mais évidemment, ça n'est pas suffisant, il faut rajouter du piment. Alors, on se dit, il y a les plaisirs du banquet, mais il peut y avoir d'autres types de plaisirs. Alors, certains auteurs rajoutent en disant, oui, non seulement elles assistent à côté de leur mari au banquet, mais elles se permettent de remplir leur devoir conjugal à ce moment-là. Puis alors, au bout d'un certain temps, on trouve que ça n'est pas assez scandaleux, on dit, oui, mais c'est pas nécessairement avec leur mari, elles s'installent à côté d'autres hommes et elles se livrent à ce genre de débat. Puis alors, ça va encore plus loin, et on se pose la question, mais s'il naît des enfants, on ne saura pas quel est le père. Et ça va jusqu'à un auteur qui affirme, en Étrurie, comme tous les enfants sont procréés de cette manière-là, au cours des débats entre des hommes et des femmes qui n'ont aucun lien conjugal, les Étrusques ne savent jamais qui est leur père, connaissent uniquement leur mère.
Alors, et voilà une rumeur inscrite dans l'histoire.
Oui, c'est la marche de la rumeur, là, tout à fait.
Enfin, ça nous donne l'idée de spécificité de ce peuple qui était très pittoresque. Et on va parler encore de l'art, parce que quand j'ai voulu vous demander quelle pause musicale vous vouliez prendre pour nos respirations de cette émission, vous avez dit « Oh, on va prendre la musique baroque italienne », car en fait, les Étrusques sont un peuple baroque.
Oui, tout à fait, parce qu'au fond, le rare se développe à partir du modèle grec. Mais on voit très souvent qu'ils partent de quelque chose qui existe en Grèce, puis alors ils le baroquisent, ça devient beaucoup plus orné, ils mélangent différents styles. Il y a vraiment une abondance tout à fait italienne. Bon, ça n'est pas du tout le goût classique auquel nous serions habitués.
Oui, alors on disait que quand c'est beau, c'est grec, quand c'est pas beau, c'est étrusque.
Oui,
ça, je suis moins gentille quand je dis ça.
Alors,
mais c'est la différence entre classique et baroque.
Oui, puis ça n'est pas tout à fait faux, parce que au départ, il semble même qu'il y ait eu des artistes grecs qui sont venus se fixer en Étrurie et qui ont vraiment, si on peut dire, lancé l'art étrusque. Par exemple, il y a certains vases, je pense à ce qu'on appelle le cratère d'Aristonotos, un vase qui a une signature en grec, mais qui a dû être produit en Étrurie. On est vers 630 avant Jésus-Christ, quelque chose d'ailleurs de très beau. Puis alors, peu à peu, ces gens-là forment des élèves, mais disons, c'est plus des artisans que des artistes. Alors, bien sûr, la qualité y est moins, mais il faut aussi tenir compte de ce qu'il est tout à fait classique, que vous avez un grand maître qui lance quelque chose, puis après, ça se banalise et ça se complexifie. Alors, il y a aussi de la part des Étrusques qu'il y a des choix qui peuvent aussi nous sembler moins satisfaisants sur le plan artistique. Je vais prendre l'exemple de la céramique étrusque par excellence, qu'on appelle le bucchero, qu'on voit dans tous les musées. En fait, ça nous fait quand même une impression assez étrange, parce que c'est des vases noirs, on peut les trouver sinistres. Mais en même temps, c'est un noir brillant, ça imite des formes grecques, mais on a l'impression que ce qu'ils essayaient de rendre par ce noir brillant, c'était des vases de grande valeur, parce que là, il y avait l'aspect, disons, pécunier et financier qui intervenait, donc des vases en argent. Et l'argent, bah, si vous ne l'entendez pas régulièrement, il devient assez noir. Donc c'était un subterfuge pour rendre cette apparence de vase d'argent.
Mais il y avait aussi du bronze, parce qu'il y a deux spécialement beaux œuvres d'art en bronze que vous avez évoqué plus d'une fois dans vos livres.
Oui, alors là aussi, d'ailleurs ça rejoint un peu le problème de la richesse métallique des Étrusques, j'ai parlé du fer, mais il y avait aussi du cuivre. Il n'y avait pas d'étain, alors là, ce sera encore autre chose. Mais les Étrusques, justement, ont été capables, par les Alpes, de nouer des relations avec les populations celtiques qui maîtrisaient l'étain.
Vous allez jusqu'en Cornouailles.
Oui.
C'est pour ça qu'on a le vase de Vix.
Oui, alors le vase de Vix est un vase de fabrication grecque, de production grecque. Mais il ne faut pas oublier que, en même temps que le vase de Vix, dans la même tombe, on avait trouvé des oinokei, des vases à vin en bronze de type étrusque et de fabrication étrusque. Donc, il y avait à la fois des Grecs, mais il y avait aussi des Étrusques. Et au fond, les Étrusques, là aussi, il faut se représenter l'Étrurie comme dépassant de la Toscane. Toute la région padane, avec Bologne comme capitale, était dominée par les Étrusques. Donc, ils arrivaient jusqu'aux Alpes. C'est eux qui contrôlaient les voies des Alpes. Et ces objets étrusques, en particulier ces cruches de vin en bronze, jalonnait tous ses parcours commerciaux vers les pays de l'étain, vers la Cornouaille, vers la Bretagne et la Grande-Bretagne, aussi vers le nord, il y a aussi le commerce de l'ambre. Donc il y avait eu un rayonnement commercial des Étrusques extrêmement important.
Alors, dire que le vin étrusque était réputé.
Oui, alors au départ, le vin n'était pas étrusque, parce que le vin a été apporté par les Grecs. Bon, on peut peut-être discuter, parce que là, il y a peut-être des choses qui sont en train de se faire avec des analyses. Maintenant, on se demande s'il n'y a pas eu une variété de vin, ou disons d'un breuvage qui tendait vers le vin, qui n'était peut-être pas très bon. Enfin, bon, disons que c'est les Grecs qui ont importé le vin, et ça commence à se développer à cette époque-là. Mais là aussi, les Étrusques ne sont pas seulement des consommateurs, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais ils se mettent à produire leur vin. Et le vin, ils l'exportent. Ils l'exportent, alors en particulier vers le nord, vers les régions au-delà des Alpes, ou d'ailleurs par voie de mer, vers le Languedoc et la région de Marseille. Alors là aussi, il y a eu des progrès dans nos connaissances archéologiques, ou je dirais plutôt l'interprétation des trouvailles archéologiques, grâce aux Français, on trouvait des tas de fragments d'amphores d'un type un peu spécial dans le midi de la Gaule. Et pendant longtemps, on n'avait pas tellement fait attention, jusqu'au moment où, justement, les archéologues français de la région se sont aperçus que c'était des amphores de production étrusque. Et c'est accompagné, justement, de vases en bouquet rouge. Nous sommes vers la fin du 7e, début du 6e siècle avant Jésus-Christ, et on s'aperçoit que les Étrusques avaient inondé de leur vin toute cette région-là. Alors, ce qui est un peu différent, ils utilisaient aussi les voies des Alpes. Là, il y a aussi des nuances chronologiques, puisque le développement des voies des Alpes, c'est plus tardif, disons plutôt deuxième moitié du 6e et 5e siècle, mais ils ont aussi une influence très importante. Alors là, ce serait un autre problème énorme et passionnant, qui est le développement de l'art celtique. On s'aperçoit que souvent, lorsque, disons, vers l'époque de l'Athènes, se crée un art celtique, c'est en partie, parce qu'il y a aussi des aspects grecs, mais en grande partie à partir de motifs étrusques qui sont réinterprétés, réutilisés par les Celtes.
Alors parlons du bronze, il y a l'aringatore,
oui.
Et puis le fameux, je vous laisse le dire, parce que
la chimère d'Arezzo. Alors vous avez tout à fait raison de me ramener à ces œuvres essentielles, parce qu'au fond ça nous ramène aussi au début de l'étruscologie, parce que c'est des œuvres qui ont été trouvées à l'époque des Médicis. Et nous sommes à la Renaissance, et à ce moment-là, bon, la Renaissance en grande partie toscane, et les Toscans, en relisant les textes anciens, se rappellent qu'il y avait eu cette civilisation extrêmement importante et extrêmement riche sur leur propre sol, et évidemment, ils voulaient en quelque sorte se rattacher à ces souvenirs prestigieux. On appelait les rois étrusques Lucumon, et quelquefois, les Médicis, ensuite qui sont devenus souverains, se sont fait appeler Lucumon de Toscane, ont organisé des fêtes, où ils se rattachaient à ces souvenirs anciens. Alors, ils ont essayé de rassembler les antiquités étrusques, ils s'intéressaient tout à fait à la chose. Par exemple, on a un dessin de Léonard de Vinci qui représente un tumulus étrusque et qui avait été trouvé, je crois, en 1513, avec un intérêt d'ailleurs qui était aussi scientifique, enfin d'ordre scientifique de l'époque. le comte de Medici avait fondé une académie étrusque qui essayait déjà à l'époque de déchiffrer la langue étrusque. Alors, j'en arrive à ces bronzes. Ils ont eu la chance énorme de trouver deux chefs-d'œuvre qui sont vraiment parmi les plus belles œuvres d'art que nous ait léguées le sol étrusque et qui font encore maintenant l'orgueil du musée archéologique de Florence. La chimère d'Arezzo, qui représente bon, ce fameux animal mythique, un mélange de lion avec un serpent qui vient de la mythologie grecque, bien sûr, et l'autre, l'angatore, ce qui veut dire le harangueur, c'est-à-dire ce qui ne représente pas, mais avait été interprété comme un chef en train de prononcer un discours. Alors, commençons par la chimère d'Arezzo. En fait, elle avait été trouvée au moment de la construction des murailles défensives de la ville d'Arezzo par les architectes attitrés des Médicis, qui étaient les Sangallo. Ils sont tombés sur cette œuvre d'art, vraiment grandeur nature, si on peut dire, bien que ce ne soit pas des bêtes qui se trouvent dans
la nature.
Mais donc il faut se représenter que, comme on la voit, elle est déjà très impressionnante. Mais cet animal qui est sur la défensive, gueule ouverte, mais en même temps avec une impression de recul, en réalité, il faut se rappeler dans quelle légende la chimère intervient. Elle intervient dans l'histoire de Bellérophon, où Bellérophon, monté sur le cheval de Pégase, est en train de lutter contre la chimère. Donc, ce qu'on a conservé, très visiblement, ça n'est qu'une partie d'une œuvre d'art qui devait être encore plus impressionnante. Vous deviez avoir aussi en bronze Bellérophon, le menaçant, monté sur son cheval. Comment est-ce qu'on peut le savoir? On a non pas des bronzes le représentant, mais on a des représentations figurées ou des petits modèles de terre cuite qui représentent la scène. Donc quelque chose qui devait être sensationnel. Puis il faut bien dire aussi, financièrement, quelque chose qui avait une valeur extrême. Et ça montre bien la richesse de ces Étrusques. Malheureusement, on ne connaît pas très bien les circonstances de la découverte. Visiblement, ça devait être un ex-voto déposé dans un temple. D'autant plus qu'il y a une petite inscription étrusque, pour une fois qu'on comprend, qui est portée sur la chimère. Il est marqué « Tins Quill ».« Quill », ça doit être un terme qui signifie « don », et « Tins », c'est le nom de Jupiter. Donc ça devait être une offrande qui avait été faite à Jupiter, une offrande absolument somptueuse.
Et alors l'orateur?
Alors, venons-en à l'orateur, qui n'est pas un orateur.
Non.
Évidemment, le personnage a le bras levé et on a eu tout à fait l'impression qu'il est en train de haranguer les foules, d'où son nom. Et d'ailleurs, il a figuré en couverture sur des séries de manuels de langue latine. Or, non seulement ça n'est pas un orateur, mais ça n'est pas non plus un latin, ça n'est pas non plus un romain. Et s'il parlait, c'est en étrusque et pas en latin. D'ailleurs, là aussi, il y a une inscription étrusque de dédicace qui est portée sur la statue. Alors, quand je dis que ça n'est pas un orateur, en fait, c'est un geste de prière. On a peut-être moins conscience, mais c'était une manière classique de prier que de lever un bras vers...
Donc c'est un orang.
Oui, ce serait plutôt un orang. Ce qui explique là aussi la découverte d'une telle statue, parce que là encore, ça a dû être déposé dans un sanctuaire. On sait que c'était trouvé dans la région du lac Trasimène. Bon, il y a eu des études qui ont été faites, parce que là encore, on n'avait pas tellement de données sur les circonstances exactes, mais disons, on sait qu'il y avait des sanctuaires dans le coin et que cette statue provient sans doute d'un de ces sanctuaires. Alors, c'est un orang, mais c'est aussi un magistrat. Et donc, dans ce cas-là, l'idée d'un orateur n'est pas tout à fait fausse. En fait, c'est un magistrat étrusque. Ce qui peut être intéressant de relever, c'est que c'est une statue relativement récente. Oui, autant l'autre, c'est du IVe siècle, là, nous sommes au second siècle. Donc, à une époque où les Romains se sont emparés de l'Étrurie, mais les Romains n'ont pas tout détruit. Ils ont laissé subsister justement cette aristocratie locale dont je parlais tout à l'heure, avec laquelle, en quelque sorte, ils ont fait affaire. Et ces aristocrates locaux essayaient d'avoir de bonnes relations avec les Romains. On a tout un débat à cette époque-là, les Étrusques essayant de se faire bien voir des Romains en disant « Ah, vous les Romains, vous savez, vous nous devez beaucoup. » Et un des points sur lesquels ils insistaient particulièrement est que les Romains avec leur magistrat, mais au fond, ils n'avaient fait que copier ce que les Étrusques du temps des rois étrusques de Rome, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius, Tarquin le Superbe, avaient apporté à Rome, donc que tout ça, c'était d'origine étrusque. Bon, on a toutes sortes de textes qui insistent sur le fait que ce qu'on appelait les insignia imperii, les insignes du pouvoir, c'est-à-dire au fond tout ce qui...
Les faisceaux...
Oui, oui, voilà. Ces histoires-là. Tout ce qui, au fond, était des symboles visibles du pouvoir.
La toge.
Oui, la toge. La toge est une toge avec une bordure de pourpre, qu'on appelle toge laticlave, parce que c'est une bordure large. Or, justement, cette statue trouvée près du lac Trasimène, alors, c'est du bronze, donc on ne voit plus la couleur, mais visiblement, la toge était mise en valeur, de même qu'étaient mis en valeur d'autres aspects. Le personnage tient un anneau. Là aussi, c'est un insigne de dignité. À Rome, on parlait de l'anneau d'or des chevaliers, mais à l'époque ancienne, semble-t-il, les sénateurs aussi avaient un anneau. Il a aussi des chaussures tout à fait particulières. Là aussi, les sénateurs
avaient droit... Les chaussures
des
sénateurs, qui étaient
oui,
noires et rouges ou...
Oui, alors, il y avait une distinction un peu compliquée, là, malheureusement. comme c'est du bronze, on ne peut pas savoir. C'était noir quand c'était des simples sénateurs, c'était rouge quand c'était des chevaliers. Mais il y a une telle insistance sur ces points dans cette fameuse statue de l'Arigatore, qui est une statue étrusque, on voit très bien le sens. Ces gens-là voulaient insister sur le fait que les Romains leur devaient ça, que peut-être après les Romains les avaient conquis, mais qu'au fond la civilisation romaine ne faisait que...
Était une héritière.
Oui, était une héritière, oui, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup. Nous allons, pour une prochaine fois, nous réserver pour la transmission des savoirs étrusques, mais auparavant, merci Dominique Briquel de nous donner une petite conclusion sur tout ce qu'on vient d'évoquer à grandes enjambées.
Effectivement, on a l'impression malheureusement de courir les siècles, de passer d'un point à l'autre. Je dois dire que c'est quand même la difficulté pour appréhender une civilisation comme celle-là, pour laquelle nous n'avons pas toutes les connaissances qu'on peut avoir sur les Grecs, sur les Latins, parce que nous avons toutes les traditions historiques. Nous n'avons pas non plus la documentation archéologique qui est permise pour l'Égypte, pour la Mésopotamie, où au fond, les conditions particulières font que beaucoup plus de choses nous ont été préservées. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Étrusques, alors bien sûr, je suis de parti pris parce que
je suis spécialiste.
Et je les trouve très sympathiques et très, très importants. Mais je crois qu'il y a quand même, justement, cette énorme proximité sur certains plans et en même temps ce fossé, parce qu'il y a toujours le fameux mystère, il y a toujours des choses qui nous échappent. Nous voudrions en savoir plus et c'est pour ça que, au fond, on est tellement attiré par eux. Nous connaissons nos limites, mais en même temps, bah, après tout, c'est peut-être l'intérêt.
C'est peut-être ça la véritable beauté du mystère. Au revoir, Dominique Briquel.